Il est 23h28 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne. Vous pouvez composer le 39-21 si vous désirez me parler et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous, chers amis. Pour le moment, on accueille Laure au 39-21. Bonsoir Laure.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laure ?
Alors, j'ai 55 ans et je vous appelle depuis Paris.
D'accord, de quoi voulez-vous me parler ?
Alors, j'avais envie de partager avec vous une expérience de près de 10 ans en accompagnement de soins palliatifs,
oui.
Donc accompagnement de la fin de vie des malades et aussi accompagnement du deuil.
D'accord. Ben, on vous écoute et je vais vous poser bien évidemment tout un tas de questions car ce sujet nous intéresse évidemment. Cette expérience donc de 10 années d'accompagnement en soins palliatifs, elle est née comment ? Elle est arrivée comment ? Dans quelles circonstances ?
Alors, il y a eu... En fait, c'est un concours de circonstances. Comme souvent, il y a plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement une rencontre. J'ai rencontré une femme qui était bénévole en soins palliatifs et j'étais très intéressée, un peu étonnée d'ailleurs, en disant « mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je lui ai posé des questions. Et très vite, elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit « tu sais, quand on fait ce genre d'accompagnement, on ne sait jamais ce qu'on donne, mais on reçoit énormément ». Et elle m'avait dit ça avec une tranquillité, une sérénité, quelque chose de vraiment très, très doux et lumineux. Et puis bon, c'est quelqu'un que je connaissais par ailleurs, qui est une femme que j'aimais, enfin que j'aime toujours beaucoup. Et il y avait vraiment, il se dégageait une chaleur, une joie même, enfin quelque chose de positif. Et je me disais, mais c'est bizarre, soins palliatifs, plus cette façon comme ça très... Ouais, très chaleureuse d'en parler, il y a un truc qui est étonnant.
Oui, oui.
J'attendais presque quelque chose d'un petit peu triste, grave, et elle m'en parlait avec beaucoup de simplicité et beaucoup de chaleur. Donc ça m'a intéressée, j'en ai parlé avec elle. Et puis, il y avait donc un concours de circonstances. Moi, je revenais de pas mal d'années à l'étranger. J'étais à nouveau à Paris, donc je pouvais m'engager dans quelque chose d'un peu stable sans avoir la peur de repartir à l'étranger à nouveau. J'avais aussi un peu de temps disponible, puisque j'avais une activité professionnelle d'indépendante qui me laissait du temps, des enfants qui commençaient à être autonomes, etc. Donc un environnement favorable, et je m'étais toujours dit, tiens, je pourrais faire quelque chose quand même pour les autres. Mais quoi ? Et là, tout à coup, est arrivée cette idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Je me suis dit, ça, c'est quand même, waouh, c'est un sacré défi. Je pense que c'est ce défi aussi qui m'a motivée, qui m'a stimulée. Et puis après, maintenant, quand j'y réfléchis rétrospectivement, je me dis que ça venait répondre peut-être à des interrogations que j'ai depuis très longtemps, là, pour le coup.
Quel type d'interrogations ?
Des interrogations assez universelles. Qu'est-ce que ça fait de mourir ? C'est quoi de se préparer à la mort ? Qu'est-ce qu'une maladie, quand le scénario est un peu écrit d'avance, comment est-ce qu'on vit ça ? Comment est-ce qu'on peut supporter ça ? J'avais pas été confrontée à des deuils particuliers, jeunes. J'ai pas eu de décès traumatiques dans ma famille.
La mort ne vous a pas entourée, en fait.
Non, j'ai pas été particulièrement frappée. Alors après, comme j'ai commencé il y a une dizaine d'années, j'avais 45 ans, donc j'avais forcément vu des gens mourir autour de moi.
Oui.
Mais rien qui ait eu quelque chose de particulièrement dramatique ou surprenant. Mais je crois qu'il y avait cette interrogation depuis toujours. Pour le coup, là, je sais précisément les étapes. Je me souviens encore très, très précisément du moment où je me suis dit « on est mortel ». Ça, c'est un souvenir extrêmement précis. J'avais 9 ans et ça a vraiment eu presque un caractère de révélation. La veille, je n'y avais jamais pensé. Et ce jour-là, à cause d'une maîtresse d'école, en fait, qui nous avait un matin... comme ça, cueilli le matin à l'arrivée de façon vraiment très, très bizarre, un peu surgie de nulle part. Elle avait eu cette phrase, moi, qui m'avait vraiment touchée. Elle nous avait dit, vous savez, les enfants, moi, le matin, quand je me réveille, je remercie le ciel d'être en vie. Bon. Et puis, elle avait dû dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, puis elle était passée à autre chose. Effectivement, c'était vraiment sorti de nulle part.
Oui.
Et moi, ce jour-là, cette phrase, elle a été... comme un secret révélé. Et c'était pas triste, en fait, puisque c'était déconnecté. J'avais pas de situation personnelle difficile, j'avais personne en train de mourir autour de moi. Donc, c'était vraiment plus une prise de conscience, voilà, une forme de maturité qui se fait à un âge où on sort de la toute petite enfance, on commence peut-être à se poser des questions. Je me suis dit, en fait, on nous en parle jamais, mais c'est un truc de dingue. Enfin, oui, vraiment le sentiment d'un secret révélé et qui était lourd et en même temps, comment dire, qui me faisait aussi apprécier. Je comprenais ce que disait cette femme du miracle de la vie. Enfin, il y avait voilà, la vie, la mort mêlée, comme toujours, d'un coup, en tout cas, ça devenait, d'un coup, enfin, ça existait. Voilà, c'est une première prise de conscience. Après, il y a eu d'autres choses, des lectures aussi qui m'ont intéressée. Enfin, voilà, donc, peut-être une préoccupation, mais qui était un peu en arrière-plan, dont je n'avais pas véritablement conscience. Et c'est cette rencontre avec cette femme et la façon dont elle m'a parlé de ce qu'elle faisait. Je me suis dit, bah oui, ça réunit plein de choses. J'ai envie d'aller voir, et c'était pas une curiosité voyeuriste, malsaine, c'était, bah oui, c'est un truc énorme, quoi. C'est juste, c'est juste un truc qui nous arrive à tous, oui. Et là, il y a peut-être des choses à faire, et puis à vivre, et j'ai fait confiance, et je me suis dit, bah, je vais postuler, et on verra bien si je m'y sens bien, de toute façon... Je verrai en y allant, en fait. Et c'est ce qui s'est passé.
Est-ce que vous avez été confronté à la peur ? Est-ce que, de votre point de vue, lorsque la mort s'approche, en règle générale, se dégage une peur de celui qui va mourir ou de celle qui va mourir ?
Alors, la peur, elle peut prendre plein de formes, plein de visages. Elle est toujours... multiple, en fait. La peur de la mort, c'est assez vague, en fait. C'est assez abstrait, d'une certaine façon. Moi, ce que j'ai vu des peurs particulières, en fait, précises. C'est-à-dire que la peur d'avoir mal, ça, c'est une première peur. Quand on est en fin de vie, c'est qu'on est malade, en général. Puisque, effectivement, moi, j'ai accompagné des gens dans des centres de soins palliatifs, donc qui sont plutôt des malades chroniques ou évolutives, et on sait que la mort est proche. Ce ne sont pas des morts violentes, hein, où évidemment, là, il n'y a pas le même... comment on ne s'approche pas comme ça, petit pas. Il peut y avoir comme ça une fin très brutale. Donc, c'est un cas particulier, mais qui est quand même un cas très général aujourd'hui, parce qu'on meurt beaucoup à l'hôpital des suites d'une maladie. Donc, la peur, elle est souvent, et d'abord, la peur de la douleur physique. Et là... Ce que je peux constater, même si parfois certaines douleurs sont très difficiles à prendre en charge, c'est qu'on a fait quand même énormément de progrès dans la prise en charge de la douleur, et ça, des médecins qui font bien leur boulot, des infirmiers, des aides-soignants, et en soins palliatifs, ils sont particulièrement formés pour le traitement de la douleur, sont en général des douleurs qu'on arrive à maîtriser ou en tout cas atténuer franchement. Donc ça, c'est souvent la peur première, elle est là, mais après, la peur que j'ai pu voir sont des peurs de vivant, pas des peurs de mort, en fait. C'est la peur de la peine de l'autre qui va vous survivre.
Oui.
Des préoccupations vraiment de vivant jusqu'au bout. Comment ma femme va supporter son veuvage ? Comment est-ce qu'elle va pouvoir payer l'appartement ? Comment... vraiment
ce sont des peurs de vivant, comme vous dites. Ouais.
Ce sont des peurs de vivant, presque plus des inquiétudes, des angoisses. Alors, il y a évidemment...
Moi, j'ai très peur de la mort.
Ah bah, vous n'êtes pas le seul.
Oui, j'ai très peur. J'évite de penser à la mort. J'évite de penser à l'espace et au temps. C'est-à-dire que la notion de l'infini, la fin, parce que... La mort, pour moi, est une fin éternelle. Et l'infini, l'espace... Vous voyez, rien qu'en vous parlant, ça me compresse la tête. J'évite de penser à tout ça. C'est-à-dire que quand je dis sur cette antenne souvent « Soyez en pleine conscience de maintenant et de vivre dans l'instant », je crois qu'à travers ce message-là, je délivre ce que je vis moi. C'est-à-dire surtout ne pas me projeter dans ce type de pensée, parce qu'elle m'écrase, elle me terrasse totalement. Et je m'en veux d'ailleurs, je m'en veux.
Bah, c'est...
Enfin, je m'en veux. C'est limité. Mais, oui, je m'en veux parce que je me dis pourquoi tu penses à ça et vas-y, passe à autre chose. Parce que ça a un côté inévitable, comme vous le dites, et que tous, nous nous dirigeons vers ça. Mais vous voyez, quand j'y pense, je vais même jusqu'à penser à celles et ceux qui sont dans le couloir de la mort, qui vont être exécutés, et au moment de l'exécution, cette peur qui les envahit. Et finalement, je me dis que nous tous, on vivra ce moment-là comme des condamnés à mort que nous sommes. Donc, ça peut aller très loin. Et c'est vrai que ça me terrorise.
Alors, il y a quelque chose de très vertigineux, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, c'est même pas une question d'être d'accord ou pas. Chacun le ressent et le formalise comme il le oui. peut, comme il le veut. Mais évidemment que la mort, c'est l'impensable, c'est l'absolue incompréhensibilité, c'est un scandale, c'est... Personne n'est jamais revenu nous dire comment ça se passe. Oui. Donc, le mystère est terrifiant. Il est, par définition, l'inconnu total. Donc, l'inconnu fait peur. Ce dont je peux témoigner, c'est que, en fait, la vie n'est pas affaire de quantité, mais de qualité. Donc, ce n'est pas parce qu'on est à deux jours de mourir, ou à une heure, ou à 10 minutes, que... Comment dire, que la mort... Elle est proche, mais la personne qui est à 10 minutes, une heure, deux jours de mourir, d'abord ne le sait pas, puisque oui. par définition, enfin, en théorie, la mort vient comme un voleur, elle ne dit ni l'heure ni le jour, donc elle est surprenante. Et même dans des milieux médicalisés, les meilleurs hôpitaux avec des diagnostics extrêmement précis, les médecins avouent leur impuissance et ils ont raison de le faire. On ne sait jamais et on ne peut jamais prédire. Il y a des malades qui, pardonnez-moi l'expression, mais qui durent bien plus longtemps que ce qu'on aurait pu imaginer, et d'autres, oui. au contraire, qui vont décéder beaucoup plus vite. Donc, le fait de ne pas savoir fait que quand on vit, on est quand même dans ici, maintenant. Et ce que j'ai pu constater et qui m'a effectivement, moi, beaucoup apporté, surprise aussi, c'est à quel point on est vivant jusqu'au moment où on est mort. Donc il y a vraiment cette vie jusqu'au bout qui peut être évidemment tragique, avoir des aspects parfois cocasses, des préoccupations qui peuvent sembler saugrenues de la part de quelqu'un qui est donc aux portes de la mort et dont on pourrait se dire qu'il va y avoir une forme de gravité, et en fait on est dans la vie, dans ce qu'elle a de plus simple parfois, qui tient à des petites choses, des plaisirs, l'envie de boire un verre de Porto ou de voir par la fenêtre un oiseau qui chante. Enfin, ça a l'air un peu idiot à dire comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est à la fois, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle est à la fois très présente et elle est absente, parce que de toute façon, quand on vit, la mort n'est pas là. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, non, mais je suis sûr. Quand on vit, on ne pense pas oui, souvent à la mort.
Et effectivement, moi, je m'attendais en allant à la rencontre de ces personnes dont la plupart savent parfaitement où elles sont et ce qui va leur arriver. Je m'attendais à beaucoup de discussions profondes, presque métaphysiques ou philosophiques ou religieuses pour certains, ou spirituelles, enfin, mettons les mots qu'on veut, mais de discussions sur que m'attend l'au-delà, est-ce que c'est le grand vide, est-ce qu'il y a autre chose, et finalement, je suis vraiment frappée par le fait que la relation, elle s'établissait comme une relation de vivant à vivant, alors je n'allais pas dire indépendamment de la situation, mais on est dans ces moments-là, dans une espèce de sincérité, de dépouillement de soi qui rejoint celui de l'autre qui est allongé sur son lit d'hôpital, et finalement, c'est de la vie dont on parle souvent, enfin, et notamment parce que la personne qui voit s'approcher la mort, elle a souvent besoin de relire sa vie. Et donc, elle est contente d'avoir quelqu'un qui est là, qui est neutre, qui n'est pas un soignant, qui n'a pas de blouse blanche, qui n'est pas non plus quelqu'un de trop proche, qu'on n'a pas envie d'accabler, ou avec lequel il y a cette dimension de chagrin ou de souffrance qui peut être, enfin, qui est très difficile. et de pouvoir parfois déposer, raconter, se raconter, trouver peut-être un sens ou peut-être un apaisement au fait de parler de soi, de sa vie, c'est, ou de parler du temps qui fait, ou de regarder une émission de télé ensemble. Enfin voilà, il y a mille et une façons, elle appartient à chacun, mais ce sont des personnes en vie qu'on va voir. Voilà, c'est ça qui... On arrive avec une espèce de solennité et elle est réelle. On ne rentre pas dans une chambre comme on rentre dans un bar, quoi. C'est évidemment qu'il y a une délicatesse, une attention à l'autre, une façon très discrète de proposer sa présence mais de jamais s'imposer. Mais ensuite, en fait, on se laisse vivre avec l'autre, quoi. On rentre en relation avec la personne et on s'adapte à ce qu'elle a envie de faire de cette rencontre. D'abord, est-ce qu'elle a envie d'une rencontre ou pas ? On peut repartir illico parce qu'on sent que c'est pas opportun. Oui. On apprend à développer, en fait, comme un espèce de... Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touchée, appris. Cette façon, je parlais de dépouillement, mais c'est vraiment le mot qui me vient toujours à l'esprit pour en parler, mais de se débarrasser de tout le superflu, de laisser son cerveau au vestiaire et de rentrer à la rencontre de quelqu'un sans position supérieure parce qu'on serait bien portant et lui... Non, pas du tout. On est là et on se dépouille, on se rend disponible et on voit ce qui se passe. Et cet inconnu-là, comment ? C'est un espace de liberté qu'on s'offre et qu'on offre à l'autre, en fait. C'est vraiment un espace du possible. La rencontre sera ce qu'elle sera. Elle pourrait être parfaitement anodine en apparence. On va, je vous dis, discuter de rien du tout. Elle pourra se faire sans mots, juste s'asseoir à côté de quelqu'un et puis qui n'a pas envie de parler. Et puis vous demandez si vous pouvez vous asseoir un moment à côté de lui. Il vous fait oui de la tête et puis on reste en silence. Quelqu'un qui vous prend la main, quelqu'un qui vous agrippe, quelqu'un qui vous regarde, qui vous sourit, qui pleure, vous pleurez avec lui. Enfin, il peut y avoir vraiment toutes les formes de rencontres possibles, mais à partir du moment où on est sincère, authentique et qu'on arrive en s'étant dépouillé de tout, voilà, de tout ce qui fait notre vie, hein, et qu'on retrouve évidemment quand on quitte la chambre ou qu'on quitte l'hôpital, voilà, on ne reste pas dans une espèce de caractère essentiel, un peu comme ça, de cœur à cœur avec l'autre. Après, on reprend nos vies avec tout ce qu'il peut y avoir de futile parfois, ou de relations plus compliquées, parce que il y a des enjeux. Là, on est dans une relation sans enjeux, sans programme, sans objectif.
Mais dans cette relation sans enjeux, en tout cas... Est-ce que nous mettons les bons mots lorsque nous disons sans enjeu ? Car finalement, entre vous et celle ou celui qui va mourir, l'enjeu n'est pas le même. Ce qui se joue, en tout cas, j'entends par là, c'est ça, ce qui se joue. Il y a d'un côté, dans cette relation et dans cet échange, celui ou celle qui va partir, qui va mourir, ouais. et vous. Que dire ? Que raconter ? Quel est le message que vous portez à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous apportez ? Qu'est-ce que vous essayez d'apporter ?
Rien. Non, mais je n'apporte rien. Je n'ai rien à apporter. Je n'ai aucun message à délivrer. Quand je rentre, j'apporte celle que je suis. Point. Être humain à être humain. Ça a l'air effectivement un peu bête dit comme ça, mais c'est très profond. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à apporter. Je viens, enfin, en dehors de ma personne. Ma personne, ma disponibilité, une ouverture, une écoute, un réceptacle pour l'autre et en même temps en étant pleinement là. C'est vraiment tout le paradoxe et c'est vrai qu'il est difficile à faire comprendre, mais y a pas d'enjeu pour moi, mais il n'y en a pas pour l'autre non plus. Enfin, ce que je veux dire, quand je disais sans enjeu, c'est que quand un soignant entre dans une chambre, il a une action, il a un soin à porter, il a quelque chose à faire avec le malade. Et l'enjeu, il est dans la prise en charge. Est-ce qu'elle va être adaptée? Est-ce que voilà. Donc le malade qui veut entrer un soignant, quand bien même c'est fait avec le plus d'humanité possible, et c'est vraiment le cas. Hein, enfin, vraiment, moi j'ai vu des équipes absolument formidables, mais il peut y avoir quand même un enjeu qui est, je suis malade, je vais peut-être pas dire exactement ce que je ressens ou de peur que l'autre me soigne mal ou me traite mal. Enfin, il y a quand même un rapport de pouvoir malgré tout. Le médecin, il a pouvoir de me faire du bien, de me faire du mal. Bon, il y a quand même un enjeu technique dans la prise en charge médicale. Quand un malade voit entrer sa fille, sa femme, son mari, ce qui est en jeu, c'est toute une vie passée, c'est toute une vie commune, c'est toute une histoire de vie. Donc forcément, il y a des sentiments extrêmement forts, profonds, anciens qui sont en jeu. Quand un bénévole entre dans une chambre, il n'est rien. Vraiment, il n'apporte rien sur le plan de faire quelque chose, de l'action qu'il va pouvoir avoir sur le malade, le pouvoir qu'il aura de lui faire du bien ou pas, etc. Et il n'y a pas tout cet enjeu de vie passée. Enfin, c'est ça, quand je disais sans enjeu, c'est cette neutralité qui est à la fois protectrice pour le bénévole, parce qu'effectivement, on n'est pas bouleversé comme va l'être un membre de la famille, puisqu'on n'a pas d'attache avec cette personne, on ne la connaît pas, on est des anonymes complets. On est juste un prénom épinglé sur le bord d'un vêtement. Enfin, oui, cette neutralité nous protège, mais elle permet aussi justement cette énorme liberté pour le malade de pouvoir exprimer ce qu'il a envie d'exprimer, de pouvoir trouver du réconfort à la présence de l'autre. Enfin, ça peut se passer après de plein de façons différentes, et c'est vraiment à chaque fois une expérience unique et singulière, qui est une relation d'être humain à être humain, de vivant à vivant, où on essaye d'oublier où on est, qui on est. On est vraiment dans une relation la plus débarrassée de tout le superflu possible. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez essentiel qui peut se passer. Et même sans mots, même sans message, sans discours, sans rien, être là dans une chambre et juste être là, la présence physique, il y a quelque chose de très, très sensible. Par exemple, on fait ce qu'on appelle des présences silencieuses pour des malades qui sont dans le coma ou qui sont peu conscients, on se relaie souvent pour assurer une présence. Tout simplement, quelle est sa respiration sur celui du malade? Parfois, on voit quelque chose qui s'apaise et tout simplement la présence physique. Mais comme une... Je pense à ça parce que je pense que ça parlera à beaucoup de gens, comme une mère qui rentre dans la chambre de son enfant et qui pleure et qui simplement va rester là et les pleurs s'apaisent. Enfin, voilà, il y a quelque chose de très, très instinctif, de très animal, la présence de l'autre, la chaleur, ce que ça dégage, le bruit de la respiration, les odeurs, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est aussi un mode de communication, c'est aussi un mode de présence. Et ça peut faire du bien avec quand même toute l'humilité qu'il faut avoir de se dire qu'on ne sait jamais, en fait. Et on ne sait jamais ce qu'on apporte. C'est ce que m'avait dit cette femme, et ça se vérifie tout le temps. On essaye de développer une forme d'intuition ou de façon de ressentir les choses. On apprend à faire confiance à ce qu'on ressent. En fait, en général, quand on se sent bien dans une chambre, c'est vraisemblablement que le malade se sent bien aussi. Donc, il y a ce jeu de vase communicant. Donc on se fait confiance dans ce qu'on ressent de façon vraiment mais très, très corporelle, hein, très sensible, très incarnée. On se fait confiance pour savoir si on est à la bonne place, si notre présence est juste, si elle est opportune, si elle est bien. Et puis voilà, et on est avec l'autre. Et je vous dis, ça peut être de plein de façons différentes. En fait.
Quels sont, si bien évidemment vous avez ce souvenir-là, mais je pense que... vous en avez, quels sont celles et ceux qui vous ont... Est-ce qu'il y a une personne qui vous est particulièrement marquée dans ce chemin-là?
Alors, il y en a... C'est pas
beaucoup.
Une.
Oui,
il y en
je
a
me
beaucoup.
Doutais. Je me doutais.
Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Dont j'ai oublié les noms, parce que les noms ont guère d'importance, mais dont je vois les visages encore, dont je me souviens des paroles, dont je me souviens des gestes. Dont... Oui. C'est pour ça que j'ai eu envie de raconter de façon romanesque et ce que j'ai vécu, parce que justement, ce sont des personnes et donc qui sont devenues bon, des personnages, mais à la base, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, que j'emmène avec moi, que je garde avec moi, que je garderai toujours.
Oui,
ça, c'est...
Oui,
c'est, oui j'en ai évidemment une quantité... voilà. Et je suis heureuse de ces présences-là, parce qu'en fait, ces gens m'accompagnent. Alors, j'y pense pas tous les jours, hein, mais ils sont présents, ils sont là dans mon esprit, dans ma mémoire, ou même titre que d'autres que j'ai vus ailleurs autrement, enfin voilà, mais ce sont oui des rencontres qui m'ont marqué, qui m'accompagnent, que je garde en moi et avec beaucoup de douceur parce que dans la relation qu'on a avec un malade, on n'est pas censé s'attacher, on est vraiment dans l'instant présent et l'idée n'est pas de développer un lien puisque on pourrait se mettre en danger en théorie. Pour autant, forcément, il se crée quelque chose, une relation, elle est
compliquée de ne pas créer de lien.
Entrer en relation, c'est déjà créer un lien.
Oui,
donc l'attachement, il est quasi inévitable quand on est sincère dans la rencontre de l'autre, que l'autre est heureux d'avoir fait votre rencontre, ben vous êtes heureux de l'avoir fait également, il s'est passé quelque chose. Et forcément, si la semaine suivante, en arrivant, on apprend que la personne est décédée entre donc les deux fois où on aura été de service, en fait, il peut y avoir un petit pincement au cœur de se dire, je ne la reverrai plus, j'avais passé un moment super, il y avait quelque chose de fort entre nous. Bien entendu qu'on a on ne se blinde pas, hein, on ne devient pas des robots, donc on peut avoir cette petite tristesse, mais elle est incomparable, enfin elle n'est pas comparable et ce serait indécent de comparer ça à ce qui est la véritable douleur de ceux qui restent, qui sont les proches. Nous, on est, mais cette petite déchirure, petit déchirement plutôt de découvrir que, Madame Attel chante telle, vraiment j'avais envie de la revoir et elle ne sera pas là aujourd'hui, il est largement compensé par ce qu'on va en garder, en fait. Donc, et c'est en ça qu'on peut faire ce genre d'accompagnement sans trop souffrir, parce qu'il faut être vigilant. Hein,
Alors,
si on vivait des pertes successives à répétition comme ça, à la fin, ce serait quand même un peu problématique. Non, moi, j'en garde quelque chose de plutôt doux, quoi, qui ne me rend pas triste.
La mort, en tout cas en ce qui me concerne, la mort... ne m'a approché que de manière violente, en tout cas, de manière... violente. J'entends par là que la mort, j'ai été confronté par des gens qui mettaient fin à leur jour. Mm-hmm. Pour la plupart, je parle de proches. Hein, je parle vraiment de très proches. La seule fois où elle a été naturelle... C'était tragique, bien évidemment, mais c'était dans des circonstances de maladie particulière. Et la seule personne que je n'ai pas accompagnée, mais à laquelle j'étais confronté, qui allait mourir, est un ami qui s'appelle Dominique, qui avait 55 ans et qui allait mourir d'un cancer. Et qui m'a, je pense, tout le temps, souvent, à lui. En tout cas, quand je dis tout le temps, c'est que j'ai régulièrement, chaque semaine, des pensées pour lui, pour justement cette paix qu'il dégageait à l'approche de la mort. Une sérénité, un courage, quelque chose qui me dépassait complètement. Mais qui m'a quelque part... aider en tout cas qui m'a soigné, qui a apaisé cette peur, cette fameuse peur dont je vous parlais tout à l'heure. Mais on va laisser passer l'info, si vous voulez bien, et puis on se retrouve lors, après le journal de Raphaël Devolvé. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Si vous nous rejoignez maintenant, eh bien vous pouvez composer le 39 21 50 centimes d'euros la minute ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes avec Laure qui nous parle des soins palliatifs, une expérience qu'elle a tentée pendant 10 ans et dont elle a écrit un roman inspiré de son expérience, L'écharpe oubliée, disponible aux éditions City. Laure, pour conclure, en fait, qu'est-ce que vous retirez de... Alors, on en a largement parlé hein, depuis le début, mais s'il y avait une chose à retirer de ces 10 années d'expérience, qu'est-ce qui vous a le plus apporté, enrichi, marqué?
On est vivant jusqu'au bout, je crois que je l'ai beaucoup dit, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé, donc c'est peut-être ce qui me rassure un peu aujourd'hui, et qu'on meurt d'autant mieux qu'on a bien vécu. Donc pour moi, c'est une incitation à vivre le plus pleinement possible, à ne jamais avoir de regrets, ou de tout faire pour en avoir le moins possible, à essayer de vivre dans l'instant présent. Et puis, bon, ce que ça a confirmé chez moi, c'est que rien dans la vie ne se fait sans les autres, et que c'est ça qui m'intéresse, et qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui vaille plus le coup d'être vécu, selon moi, que dans la relation à l'autre, qui est au sens large une relation d'amour. Alors c'est... Voilà, j'ai prononcé le mot, mais je le crois profondément, et cette expérience que j'ai vécue, elle était pleine d'amour pour l'autre, mais de façon à la fois très, très générale et en même temps très particulière auprès des gens que j'ai rencontrés, puis des équipes de bénévoles, de soignants, etc. Et voilà, et ça, c'est ce que ça m'a apporté. Est-ce que ça fait de moi une personne meilleure qu'avant? Non, vraisemblablement pas. En tout cas, je n'aurais pas la prétention de le lire, mais en tout cas, la relation à l'autre et cette façon de se faire confiance à ce qu'on ressent et plus être dans une démarche trop intellectuelle ou analytique, dans ce qui est souvent le cas quand même. On est dans un monde de performance, on est dans un monde de projet, on est dans un monde d'action, et c'est bien normal, il en faut. Hein. On ne pourrait pas être dans cette espèce de gratuité ou de liberté que j'ai peut-être essayé de vous faire partager un petit peu dans ce que j'ai vécu, mais en tout cas, ça, savoir que ça existe, savoir qu'on a ça en nous aussi, tous, hein, parce qu'on est tous capables de ça, et ben ça, pour moi, ça a été un vrai apport, un vrai enrichissement, en tout cas, et j'en suis vraiment heureuse. Oui. Et c'est ça aussi que je voulais un peu communiquer, en fait, dans ce que j'écris.
Lors de l'échange que vous avez eu avec mes collaborateurs, vous avez dit: j'ai seulement envie de vivre encore un peu plus fort pour ne pas avoir de regrets.
Oui. Mmh. Oui, tout à fait.
Non, c'est tout de même énorme, ça. Je dirais comme cadeau.
C'est un cadeau énorme.
Cette prise de conscience qu'il faut vivre maintenant nos rêves, vivre à fond.
Oui, c'est au-delà de la prise de conscience, une fois de plus, un peu rationnelle. Quand je sortais de l'hôpital après mon bénévolat, j'avais vraiment une espèce de pêche, enfin, ou d'énergie ou de force que je ressentais physiquement, une envie de sourire aux gens dans la rue, une envie d'aimer la voiture qui m'avait fait une queue de poisson. Alors, ce n'est pas un état un peu béat, un peu idiot, mais c'est ces moments où on se sent un peu plus centré, un peu plus en accord avec soi-même, un peu plus aligné, un peu plus fort, ce moment où c'est comme si d'avoir été toute la journée dans ses chambres, etc., il y avait comme une espèce pas de reset qui se fait, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de, qui s'est un peu épuré, de purge ou de quelque chose. Bon, après, ce n'est pas un état qui dure tout le temps. On est rattrapé par ce qu'on est, nos faiblesses, nos bêtises, nos trucs. Mais il y avait quand même quelque chose de ça. Et ce n'était pas de se dire, ah ben, je sors et moi, je suis vivant, moi, je suis en pleine santé, alors que je viens de quitter des gens qui ne vont pas bien, donc youpla boum. Ce n'était pas ça. C'était vraiment, ça dépassait le côté vraiment, contingent de l'état dans lequel on est par rapport à un autre comparatif ou rationnel. Non, c'était vraiment quelque chose de plus essentiel, de plus profond. Pas simplement de se dire ben « moi, je marche sur mes deux jambes et je peux galoper si je veux alors que les autres, non ». Vraiment, c'était pas dans cette comparaison-là « je suis bien portante, t'es pas eux ». Non, c'était ce que j'ai vécu. Ben, si je l'ai vécu comme ça, c'est que vraisemblablement, eux aussi ont vécu quelque chose de fort. Enfin, je l'espère. Enfin, j'en sais rien. Mais j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas être très très bien avec quelqu'un s'il est très très mal avec vous. Donc c'est qu'il s'est passé quelque chose d'un peu vertueux ou d'un peu généreux, d'un peu humain entre nous. Et ça, quand on a ce sentiment-là, ben oui, on a quelque chose d'une forme d'optimisme ou d'amour de la vie,
ou de grâce.
Foi en l'existence ou de foi en l'homme, enfin voilà, ou de grâce. Enfin, on pourra mettre tous les mots qu'on veut, mais je le ressentais physiquement. Et c'est ça qui est important pour moi de en témoignant de tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, l'écriture romanesque est extrêmement importante parce qu'on s'incarne dans des personnages et donc on vit ce qu'ils vivent, on peut s'identifier, on peut, et moi je peux me projeter, et parler de choses concrètes, sensibles. Mm-hmm. Pas des discours, les témoignages, c'est formidable. Et il y a beaucoup de récits, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de théories sur l'accompagnement, la prise en charge, la vie, la mort des philosophes depuis des milliers d'années, etc. Mais cet aspect vraiment sensible de ce qui se passe, des rencontres, des gens qu'on voit, de toutes ces anecdotes dont je me suis servie effectivement pour la fiction, au service de la fiction, ça c'est vraiment des choses qui sont... Oui, très, très incarnés, qui sont profondément humaines avec ce qu'on est, c'est-à-dire un corps, un cœur et un esprit. Enfin voilà, la totalité, c'est la totalité qui est en jeu. C'est ça qui est assez formidable.
Très bien. Merci Laure pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous avez écrit ce roman inspiré de votre expérience de 10 années de soins en soins palliatifs. Le bouquin s'appelle « L'écharpe oubliée » et il est disponible aux éditions City. Mille merci pour votre passage chez nous ce soir.
Eh ben merci beaucoup de votre accueil. J'étais ravie de parler avec vous. Merci
Moi
beaucoup.
Aussi. Bonsoir Laure.